De retour au L de la cartoucherie pour ce troisième et dernier plateau radio, partenariat entre CFM Radio et Radio Terre. On va parler de cuisine avec évidemment l'école La Source qui était déjà l'invité de ces plateaux radio. Mais cette fois-ci, nous ne sommes plus avec Isabelle Thierbois qui est sa directrice, mais avec Sandra Ben-Slimane qui est chef de cuisine, on peut dire comme ça. Et puis une professeure respectée de ses élèves qui sont d'ailleurs là, qui sont représentés par Camille et Marianne. Bonjour à toutes les trois. Qu'est-ce que vous avez cuisiné ? J'ai entendu dire qu'aujourd'hui c'était l'atelier œuf et que c'était un atelier extrêmement important. Que tout le monde a été sérieux. Racontez-nous un petit peu, là, cette fois-ci, on passe vraiment en cuisine. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez appris? Qui s'y colle? Marianne, Camille, allez, il faut se lancer okay. Avec le micro vraiment près du menton.
Alors, aujourd'hui, on a d'abord commencé par toutes les bases. Donc, on va avoir les œufs mollets, œufs durs, œufs coques. Et on a pris d'autres bases en les poussant un peu plus loin, en allant un peu au-delà de la France. On a fait une omelette japonaise. Donc, on est venu rouler. Et qu'on a assaisonné d'une façon particulière, donc avec de la sauce soja, de l'huile de sésame, du sucre. On a fait également un sabayon.
Alors racontez-nous, qu'est-ce que c'est un sabayon? Si vous avez bien retenu la leçon de Sandra Ben-Slimane.
Camille, est-ce que tu veux expliquer?
Allez Camille, les secrets du sabayon.
Oui, c'est des œufs qu'on fait monter au bain-marie et dans lequel on rajoute beaucoup de beurre.
Voilà, ça c'est le secret de Sandra.
Voilà. Et puis, ça a fait une texture un peu mayonnaise, qu'on mange chaud.
Est-ce que vous l'avez servi au restaurant ce midi ou ça c'était juste un atelier, disons d'apprentissage pédagogique
Là, non, on l'a juste servi en atelier, enfin que pour nous. En atelier, on l'a appris, on l'a dégusté pour connaître les saveurs et tout ça. Mais potentiellement, on le fera plus tard. Alors, un resto.
L'une des spécificités de La Source, c'est que la plupart des élèves sont plus âgés que les élèves qu'on croise dans les lycées hôteliers, dans le parcours, disons, classique. Vous, toutes les deux, quel a été votre parcours? Est-ce que vous avez fait des études qui n'avaient aucun rapport avec la cuisine? Est-ce que vous aviez déjà un rapport avec la cuisine? Quel était-il? Racontez-nous d'où vous venez, comment vous avez eu envie de pousser les portes de l'école La Source.
Alors moi, je viens du monde du bâtiment, rien à voir. Mais j'avais déjà eu envie de faire ça il y a quelques années, donc
après donc tu t'es dit...
une expérience compliquée dans le bâtiment, j'ai switché.
Et Marianne?
Et moi j'ai toujours aimé la cuisine, depuis petite je voulais en faire, on m'a très vite dit que c'était très dur d'être chef, surtout en étant femme en cuisine, donc j'ai un peu oublié ça, et puis... vers l'adolescence, ça m'est revenu et je me suis dit, ok, je vais d'abord faire des études en ressources humaines. Donc, j'ai un master en ressources humaines, j'ai travaillé là-dedans aussi, pour avoir tout un bagage de gestion, pour pouvoir ensuite continuer en études en cuisine. Et du coup, plus tard, si je veux aller jusqu'à avoir mon propre restaurant, eh bien, j'aurai déjà toutes ces informations sur comment on recrute quelqu'un, comment on intègre quelqu'un, comment on fidélise son personnel. Et comment on gère, parce qu'on a aussi toute une partie compta, etc. Donc voilà, comme ça, j'aurai déjà un bagage d'informations conséquent et utile.
Alors, vous en avez parlé, on a évidemment évoqué le sujet, que ce soit avec Alexis de Longlet, comme avec Isabelle Thierbois, les violences en cuisine. Sandra, vous êtes issue, avant d'être professeur à l'école La Source, vous êtes issue évidemment du monde de la restauration, vous avez eu diverses expériences, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel vous avez été sensibilisé très tôt. Est-ce que les choses ont changé, évolué, et surtout, qu'est-ce que vous dites à vos élèves par rapport à ça, même si vous intervenez évidemment sur le côté, sur le volet vraiment pratique, hein, mais disons, dans cette perspective-là, qui est un engagement fort de La Source, voilà, quel retour d'expérience vous leur faites, Sandra, à vos élèves?
Déjà, effectivement, donc ouais, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. Il y a une partie de la formation où on en discute pendant à peu près 2 heures sur les différentes violences qui peuvent exister, qui sont, alors je vais pas dire de moins en moins présentes, mais qui sont en tout cas de plus en plus mises à jour. Donc il y a quand même plus de choses qui sont mises en place aujourd'hui. Il y a des associations, il y a des collectifs qui font qu'il y a plus de chances de pouvoir en tout cas les dénoncer et faire que les choses se passent mieux. Et après, voilà, au quotidien, on a des retours d'entreprise, on essaye de gérer du mieux qu'on peut chaque conflit ou chaque problème.
Oui, parce qu'il faut que vous trouviez des stages. Et Isabelle et Alexis nous précisaient que La Source a fédéré une espèce de réseau de restaurants, ils ont vertueux en tout cas, qui essayent de respecter hein, quand même des conditions de travail, qui soient acceptables. Vous avez trouvé vos stages toutes les deux. Où est-ce que vous allez partir? On a eu Eva qui partait à Marseille lundi. Où est-ce que vous en êtes de vos recherches? Parce qu'on va peut-être vous filer un coup de main si jamais c'est pas encore bouclé.
Nous on est en alternance, donc on n'est pas en stage. Donc on a déjà depuis septembre notre.
Si j'avais mieux préparé, j'aurais pas dit de bêtises. Allez-y.
Donc on a trouvé, c'est bon.
Où ça?
En restauration collective à Balma.
Restauration collective, on le rappelle, qui est un volet très important. Sur l'apprentissage à la source, vous les formez à tout type de restauration, donc commerciale, collective. Comment ça se passe les enseignements, Sandra, par rapport au cursus?
Bon, en fait, nous, on va vraiment leur dispenser les techniques classiques, donc voilà, apprendre à faire des œufs, que ce soit en collectivité, en traiteur ou tout simplement dans un restaurant traditionnel. Ils auront les mêmes bases. Après, voilà, il y a des techniques que nous, on n'aura pas spécialement sur le collectif, où ils vont travailler différemment sur des plus grandes quantités. Mais du coup, les bases restent les mêmes, peu importe l'entreprise.
Alors, c'est le moment de la question un peu piège. Quand on arrive dans les cuisines de la source, il y a un très, très joli néon où il est écrit « Un goût de révolution ». Et depuis hier, on essaye de savoir quel goût peut avoir cette révolution. Est-ce que vous avez une idée comme ça? Parce que c'est pas évident. Hein. Et là, il faut répondre avec du concret, hein, pas du concept, pas tout ce qu'on entend depuis trois jours sur ces plateaux. C'est quoi un goût de révolution? Allez, qui se lance? Marianne, Camille, Sandra? Allez, Marianne.
Moi, je propose un goût de beurre.
Un goût de beurre dans le...
C'est quelque chose qui est puissant, que tout le monde connaît, qui est fédérateur. Et qui peut être réconfortant et qu'on peut utiliser partout. Donc, je propose ça.
La révolution par le beurre?
Oui.
Alors, vous la faites surtout par les légumes, hein, quand même, parce que la carte du restaurant d'application est très axée sur le végétal. Ça aussi, un axe fort, on en a déjà discuté, mais bon, en gros, là, vous leur avez fait un atelier sur les œufs, mais c'est une parenthèse dans tout le reste. Sinon, c'est que de la verdure, Sandra.
Non, on a aussi quand même viande, poisson, on a deux cours viande, on a un cours volaille, un cours viande, un cours poisson.
C'est une formation accélérée par rapport au cursus classique. On fait un petit rappel, hein, parce qu'on l'a déjà évoqué avec Isabelle Tirebois, la directrice, mais en gros, c'est quoi? C'est 6 mois, un an
Un an.
Un an.
C'est une formation en un an pour eux, et après il y a les formations en 3 mois qui vont être en accéléré, comme Eva.
Est-ce qu'il faut un parcours, est-ce qu'il faut avoir quelques notions, quelques bases? Est-ce qu'il y a, disons, un concours d'entrée où n'importe qui, même s'il n'a jamais manié une casserole, peut s'inscrire à la source, Sandra?
N'importe qui peut rentrer, à condition d'avoir une alternance, plus de 18 ans, et de parler, écrire et lire le français.
Le goût de la révolution de Marianne, on l'a pas eu?
Ah oui?
De Camille, pardon.
De Camille.
Non, moi, un truc que je trouve hyper cool, c'est qu'on est énormément de filles par rapport aux garçons et qu'on voit peu dans les cuisines. Donc, c'est une.
Combien vous avez une idée? Il y a
Nous, dans notre groupe, on est.
Il
n'y
a que des filles.
On est 6 filles pour 4 garçons.
Oui,
donc c'est une petite supériorité, mais supériorité quand même.
Et pourquoi vous avez choisi la source comme école?
Et oui, la question essentielle qu'on a oublié de poser d'entrée.
Ouais. Alors moi, je l'ai découverte par hasard sur Internet. Je ne connaissais pas du tout. Après, c'est tout jeune, donc c'est peut-être normal aussi. Mais c'est une école qui m'a attirée parce que le côté végétal, ce n'est pas quelque chose que je connais. Voilà, moi, je viens de la campagne et j'ai vraiment été élevée à la viande. Et les légumes, c'est vraiment sur le côté. Et du coup, j'avais envie de découvrir les légumes, chose qu'on fait et qui est trop bien.
Maintenant, vous en êtes devenue une spécialiste, peut-être?
Alors, pas encore quand même, mais un jour peut-être.
Ça, la cuisine végétale, vous, Sandra, ça fait des années que c'est quand même un axe fort que vous privilégiez.
Ouais. La pâtisserie végétale, maman.
Oui, un peu tout.
Un pâtisserie peu de tout. Végétale, donc c'est-à-dire sans œufs, quoi, par exemple.
Ouais, sans œufs, sans crème, sans beurre.
Les autres ateliers prévus au programme, là, qu'est-ce que vous allez animer, Sandra? Peut-être que vous allez d'ailleurs retourner en cuisine, parce que c'est bien gentil de venir parler au micro, mais il faut bien travailler dans la vie, quoi.
Non, mais là, la journée est terminée pour nous trois. Je vais avoir des cours céréales et légumineuses demain sur toute la journée avec plein d'éléments et plein de recettes un peu originales et plutôt chouettes. Il va y avoir des ateliers pâtes levées où ils vont faire plein de pains, plein de petites choses assez cool qu'ils mangeront demain aussi. Et voilà.
Alors. Comme dans la plupart des lycées hôteliers, il y a un restaurant d'application, il y en a partout. La spécificité, c'est qu'ils passent à la fois de la cuisine à la salle, ils voient tous les aspects du métier. Ça, c'est important, Camille, Marianne, de toucher, disons, à tous les postes de la filière de la restauration. Et peut-être créer des vocations, pourquoi pas. On peut se découvrir une vocation de sommelière, de sommelier, de serveur. On a peut-être ces dernières années un peu disons, méprisent le service en salle, mais ça a tendance à revenir. Voilà votre regard là-dessus, les filles.
Oui, c'est un super plus parce que rien que pour en cuisine, savoir de quoi les gens ont besoin, que ce soit les serveurs ou autres, en salle, et comprendre du coup pourquoi on a telle organisation et pas une autre. Et au contraire, comprendre ce qui pourrait être amélioré si jamais on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément fluides. Donc rien que pour ça, c'est un super plus. Et c'est nécessaire, je pense, pour la formation en cuisine. Même si on veut rester en cuisine après, je pense que c'est très nécessaire.
Et vous allez rester en cuisine toutes les deux ou vous avez des envies de, peut-être de salle, de service?
Alors moi, la salle, c'était pas du tout mon truc. Ça ne m'attirait pas du tout. Et là, le fait de nous le proposer, j'ai trouvé ça cool. C'est très loin du service 3 étoiles qu'on peut retrouver. Du coup, c'est ça aussi qui est sympa, c'est que ça nous permet d'aborder les choses simplement.
Et puis d'expliquer ce que vous faites aussi, peut-être,
ouais, aussi.
Tout simplement, ça c'est important.
Ouais. Les clients sont assez curieux de savoir vraiment tout ce qu'il y a dans les plats, donc il y a pas mal de... Le relationnel est très intéressant.
Le restaurant, il est installé juste à côté de là où on se trouve, hein, sur la mezzanine. Auparavant, il était en bas, Sandra.
Oui.
Est-ce que ça a changé quelque chose, à la fois dans la pédagogie, puisque ça ressemble beaucoup plus à une salle de restaurant classique par rapport au food court qu'il y a en bas. Comment vous appréhendez les choses? Est-ce que c'était une volonté pour vous de les mettre en situation de restaurant, disons, tout à fait classique? Voilà, est-ce que c'était une idée que vous avez développée avec le corps professoral de la source?
C'est surtout une proposition qui nous a été faite de la cartoucherie et en fait qui était assez chouette. Donc le changement entre le bas et le haut, ça a été quand même assez intense au début, mais c'est quand même mieux parce que donc voilà, effectivement ils sont plus en condition, ils sont en lien vraiment avec les clients, donc ils ont aussi les retours directs et le plaisir de pouvoir présenter les choses qu'ils ont faites quelques heures avant. Et surtout, c'est qu'en fait, ils ont des vrais services où on envoie entrée, puis plat, puis dessert, avec un vrai rythme qu'on n'a pas forcément en collectivité ou dans d'autres entreprises. Et alors qu'avant, quand on était en bas, pour le coup, c'était un plateau, on envoyait entrée, plat, dessert en une fois. Et donc, du coup, il y avait quand même un peu moins de... C'était pas pareil.
Ouais, on n'allait pas jusqu'au bout de la démarche.
Ouais.
Et on a pu le constater nous-mêmes en déjeunant avec toute l'équipe de CFM Radio et de Radio Terre au restaurant d'application. Ça rigole pas. Hein. C'est dans le respect, mais c'est sérieux. Viril mais correct, comme disait Walter Spanguero. On rappelle l'école La Source. Ça a été créé par Laurent Perles et Alexandre Panza aux alentours des années 2018-2019. À un moment où déjà les métiers de la restauration étaient en très très forte tension. Officiellement, il manque quoi, 150 000 personnes dans cette filière. Officieusement, ce serait presque le double. Ça paraît énorme. Quel est votre regard sur la question, Sandra? Vous qui avez d'ailleurs quitté la restauration commerciale pour vous lancer dans le professorat, comment expliquer? C'est quoi? C'est comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un métier qui est très difficile avec des horaires en coupure. C'est un métier qui est physique, beaucoup de promiscuité. C'est pas évident. L'erreur de l'un déteint sur le travail de l'autre. Comment on aborde toutes ces choses-là, ce climat, disons, Sandra? Vous qui avez quand même 15 ans d'expérience là-dedans. Vous avez eu envie de quitter la restauration. Hein, vous me le disiez en préparant cette émission.
Ouais.
Vous en aviez un peu assez?
Oui.
De quoi vous aviez assez, Sandra?
C'était les contraintes, c'était les coupures, c'était la fatigue, c'était les ambiances des fois pas forcément très agréables parce qu'on vit dans des climats...
Misogynes, disons-le.
Ouais, misogynes, sous tension, avec quelques débordements de certains coéquipiers, mais voilà, c'était plus une fatigue générale de trop, en fait, de trop d'un point de vue général. Et du coup, l'envie aussi de passer de l'autre côté, d'essayer de se dire que, c'est aussi rigolo de pouvoir aussi former à des jeunes et des moins jeunes, mais de former des personnes, en tout cas des jeunes dans la cuisine, à la bienveillance et au respect, en expliquant qu'il peut se passer des choses bien.
Des jeunes et des moins jeunes, alors on ne va pas vous demander vos âges, ça ne se fait pas, mesdemoiselles. Mais disons, les plus âgés, ils ont quel âge ici à La Source?
Le dernier qu'on ait eu avait 56 ans.
Ouais.
Donc on est entre 18 et 56 là.
Il lui reste encore une dizaine d'années avec la retraite là, pour trouver un poste. Il a trouvé une alternance?
Lui c'était en continu, donc lui il avait juste un stage à faire.
Avec des profils très, donc bâtiment, vous avez des ingénieurs aussi. Enfin, il y a tout un tas de profils. C'est amusant de travailler avec des gens comme ça. Sandra, qu'est-ce que ça change par rapport à des élèves qui arrivent au lycée hôtelier, qui ont 15, 16, 17 ans, qui sont encore tout frais et moulus, quoi. Mais
ouais. Déjà, on va avoir plus. Alors, avec des guillemets bien sûr, mais on va avoir plus de maturité chez la plupart. on aura plus de maturité. Après, c'est vrai que pour le coup, ben, un petit jeune de 15 ans sera plus facile de le faire rentrer dans un moule. J'aime pas trop l'idée, mais c'est un peu ça aussi, de le façonner en tout cas à la vision de la cuisine. Alors que ben, des adultes auront plus déjà leur manière de penser, donc ce sera des fois un peu plus compliqué de pouvoir se faire entendre, parce qu'on m'écoute pas toujours.
Ah, vous, vous écoutez quand même. Vous avez l'air
c'est assez, pas nous, elle parle pas de nous.
Vous avez l'air assez...
Nous, on
assez,
est son meilleur assidu. Groupe.
Est-ce que vous avez des formations, est-ce que ça, ça rentre dans le cadre pédagogique, des formations à la gestion d'un restaurant ? Parce qu'on peut être très bon cuisinier, être un artisan de premier plan, mais pas savoir gérer une entreprise. Et ça, c'est peut-être aussi un aspect qui n'est pas forcément mis en avant dans l'enseignement tel qu'il est certifié par l'Éducation nationale. Votre point de vue sur, le, sur la question, que, à toutes les trois, hein, que ce soit côté professeur comme, comme apprenti hein.
Bah, sur l'année 1, pardon, sur l'année 1, on va pas forcément avoir cet aspect-là à fond, mais on va voir un peu voilà, comment gérer ses coûts matières, comment essayer d'avoir, d'être le plus carré. Et par contre, sur l'année 2, il y a une grosse partie sur le management, sur la gestion, sur toute la partie organisation et gestion du lieu.
Ça, c'est un volet important aussi, les aspects économiques. Vous sentez que vous en avez besoin, que c'est quelque chose qui peut faire défaut quand on se lance dans un projet de restaurant. Vous avez, vous, un projet de, disons, de créer un restaurant comment ça se passe? Est-ce que c'est encore en gestation racontez-nous.
Idéalement, oui, mais pas du tout tout de suite. Je veux d'abord avoir des années d'expérience... avoir de la bouteille. Donc pour l'instant, enfin voilà, dans un futur éloigné, pourquoi pas, mais pas toute seule. Enfin voilà. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai du coup en amont fait des études en gestion pour avoir déjà ce bagage et pourquoi pas le compléter avec le volet 2, effectivement. Ça, c'est sûr que ça pourrait être très intéressant, mais c'est sûr que c'est nécessaire.
C'est le cas de la plupart des élèves, ils sont sensibles à ça, ou c'est cuisine, cuisine, cuisine.
En tout cas, on essaye de les former à ça, ouais. On essaye de leur faire voir vraiment le côté plus large, parce qu'on ne va pas se mentir, il y a quand même pas mal de restaurateurs qui en pâtissent parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les clés. Et c'est super de bien cuisiner, mais en fait, si on veut vraiment gérer une cuisine, bah, il faut aussi voir un peu plus loin, voir un peu plus large.
Alors, il y a la source à Toulouse, mais il y a évidemment la maison mère à Paris. Deux autres lieux d'implantation, je crois. Alors, Bordeaux.
Ouais.
Et Marseille qui est en cours de route, le réseau est en train de s'élargir.
Ouais. Mais là, le restaurant est ouvert à Marseille depuis octobre, fin septembre, début octobre. Donc là, on n'a vraiment que le restaurant et par la suite, l'école ouvrira.
Avec Alexis, on en a beaucoup parlé. Le label écotable, ça, c'est quelque chose qui est important avec beaucoup de critères hein, cumulatifs pour obtenir ce label. Vous, vous avez la certification la, la plus aboutie. C'est les 3 étoiles ou les 3 macarons. Hein, c'était pour correspondre à la catégorie du guide Michelin. Mmh. Ça implique quoi pour vous, Sandra, dans votre travail au quotidien? Bon, évidemment, approvisionnement local, ça, on en avait parlé. Je crois que c'est 60%. 60% ouais. D'achats bio, bio et durable. Mm. On ne sait pas toujours ce qu'on met derrière le mot durable, mais voilà. Qu'est-ce que ça implique concrètement quand on passe en cuisine d'avoir cette labellisation écotable?
Bah déjà, c'est un plaisir parce qu'on sait qu'on a du beau produit, on sait qu'on travaille bien. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les filles, mais du coup, c'est vrai que c'est agréable de se dire qu'on n'ouvre pas des barquettes toutes prêtes, qu'on est vraiment sur des. C'est, en fait, chaque produit a été choisi et sélectionné, et on le fait intelligemment, et ça, c'est quand même plus agréable.
Parce que dans les circuits, disons, traditionnels de l'enseignement, parfois on a des élèves qui sont déçus d'avoir à utiliser effectivement des barquettes, des choses sous vide. Bon, ils ont l'impression de venir pour réchauffer des plats, remettre des choses, des choses en température. C'est pas du tout le cas à la source.
Non, non, vraiment tout ce qu'on produit, tout ce qu'on produit en fait, tout ce qu'on prépare, on le produit nous-mêmes, pardon. Donc on a tous les fonds et bouillons sont faits maison, même les pains du restaurant. Voilà, on essaye d'aller vraiment au bout du process et on n'achète que du produit brut qu'on transforme nous-mêmes.
Oui, c'était une question qu'on se posait quand on a déjeuné. Est-ce que le pain était d'ailleurs fait par l'école? Donc tout est fait, y compris le kombucha et les boissons.
Pas celles qui sont ouvertes avec un petit bouchon, avec une marque dessus. Mais non, ouais, toutes les boissons qu'on fait, sinon on essaye de les faire maison aussi au maximum.
Une initiative qu'Isabelle Thirbois nous a détaillée et qu'Alexis aussi nous a détaillée, c'est que le vendredi, vous cuisinez avec les restes de la semaine, il me semble. Là, il faut faire jouer ses neurones, il faut vraiment phosphorer. Qu'est-ce qui est prévu là? Est-ce que vous avez déjà suffisamment de restes? Parce qu'on est, on enregistre cette émission mercredi, mais est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous travaillez déjà en amont sur ce qui va être cuisiné vendredi avec les restes? Donc.
On peut l'avoir plus ou moins. Là, c'est une semaine un peu spéciale parce qu'il y a le pop-up. Donc du coup, quand c'est un pop-up, ils ont 3 fois le même menu. Enfin, ils ont le même menu sur les 2 ou 3 jours. Et donc là, cette semaine, exceptionnellement, on n'aura pas d'anti-gaspi.
Ah, On est venu la bonne semaine alors. Mais vous faites des ateliers. Mathieu Castan est dans les murs là, cette semaine. Mathieu Castan de Mangerview, spécialiste de la lactofermentation. Ça, c'est un axe que vous êtes en train de développer, oui. Sandra. Enfin, je dirais avec la source. Hein, oui, oui. Donc, évidemment, si on a des épluchures de légumes, on peut en faire des pickles. Vous avez quelques recettes comme ça à nous donner ? Ça marche comment si on veut faire des pickles ? Et on va s'adresser, voilà, on va s'adresser aux apprentis. Hein ? Racontez-nous comment on fait. Si on veut en faire à la maison, on s'y prend comment ?
Bah, ça tombe bien, on sort du cours de fermentation. Voilà. Bah, les pickles, c'est pas de la fermentation,
ah.
Mais c'est un mélange d'eau, de sucre et de vinaigre qu'on fait chauffer et qu'on verse sur l'ingrédient qu'on veut faire en pickles.
On et peut le faire. Alors on connaît évidemment bon, les oignons, cornichons. Cornichons en fait c'est les pickles, non ça marche plus ou moins comme ça. Mais il peut y avoir des ingrédients, des aliments beaucoup plus amusants, non
On fait avec tout ce qu'on a. Hier, par exemple, on a fait des pickles de butternut. Parce qu'on avait des morceaux de butternut avec le risotto et du coup, on...
Alors, on s'y prend comment concrètement ? Si je veux faire des pickles de butternut chez moi ce soir, là, je fais comment ? Il nous faut du concret, là. Hein ? Allez.
Les pickles, ça peut être vraiment très libre. C'est une recette qui est très rapide et qui peut donner plein de résultats différents. En gros, il faut... Enfin, en tout cas, moi, les recettes que je fais...
Et pas celle de Sandra. Hein. Sandra, il ne faut pas écouter ce qu'elle raconte.
Ah si, c'est
d'accord.
Délicieux quand on écoute Sandra. Donc, on a moitié eau, moitié vinaigre.
Un temps pour temps, donc. Voilà.
Ouais. En tout cas, ça peut être une des recettes. Ça peut être un peu plus, un peu moins de l'un ou de l'autre, selon ce qu'on choisit, mais voilà. Le vinaigre, ça peut être du vinaigre de cidre, ça peut être du vinaigre de framboise, ça peut être du vinaigre balsamique, c'est ce que vous voulez. Et après, donc, par exemple, ça peut être effectivement du butternut, voilà, coupé finement, de préférence.
Ouais, et si on met le butternut entier, ça va pas forcément voilà, marcher tout de suite.
Ça va être très, très peu agréable. Et on va toujours ajouter du sel et un sucrant. Donc ça peut être du sucre, ça peut être du miel, ça peut être du sirop d'érable, ça peut être plein de choses. Et on va rajouter, on peut rajouter les épices qu'on veut. On peut rajouter des herbes de Provence, du curry, du sumac, du zaatar, ce qu'on veut.
Des graines de coriandre.
Oui, des graines de moutarde. Enfin voilà. Donc on a vraiment pléthore, une belle palette.
On peut d'ailleurs faire des pickles de graines de moutarde. C'est très très bon. C'est d'ailleurs assez à la mode. Hein. Ça vient twister les assiettes. Quoi d'autre ? On voulait vous poser une question un peu piège. Allez-y, Lisa. La recette de
Vous oubliez en manger,
voilà, la bûche de Noël. Est-ce que vous savez faire une bûche de Noël ? Alors là, évidemment, il ne fallait pas qu'on vous prévienne, sinon vous alliez tuster, comme on disait au bahut. Allez, quelques astuces.
Alors, déjà, il y a plein de types de bûches.
En bois, non, il y en a...
Non, il y a les bûches glacées, les bûches pâtissières, mais on ne les a pas au programme, donc on n'a pas les recettes.
Donc ça, il faudra le suggérer au corps enseignant. Mettez-nous des cours sur les bûches.
Les bûches glacées, on n'a pas de cours sur les glaces. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que ça va être compliqué d'apprendre à les faire ici. Après, la bûche classique, ça va être un biscuit génoise, si je ne me trompe pas. Et après, qu'on garnit de ce qui nous fait plaisir.
Donc des œufs, du beurre énormément, hein, j'imagine.
Du sucre aussi, beaucoup.
Sandra, oui, évidemment. Il faut qu'il y ait beaucoup de sucre.
Et après, comme Sandra dirait, il faut de l'amour dedans.
Oui. Qu'est-ce que vous préparez d'autre en ce moment ? Là, on a parlé pickles, on a parlé bûches. Bon, nous, on a effectivement déjeuné au restaurant, on a mangé que des légumes parce qu'on a compris que c'était le principe. Pour la viande, on repassera plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là qui vous vient en tête en cette fin d'année, cette fin de saison ? Bon, vous êtes en alternance, mais les arpètes, comme on dit, qui étaient au restaurant d'application, là, ils ont fait quoi cette semaine, Sandra ?
Ils ont fait plein de choses. Ils ont fait des petites babkas salées en entrée.
Alors, qu'est-ce que c'est ça ?
Ce sont des brioches avec un peu moins de beurre qui viennent d'Europe de l'Est. Ouais, désolé.
Mais avec tout le beurre que vous aviez pris pour faire la bûche, il n'y en avait pas assez pour. D'accord,
c'est ça.
Donc ça tombait bien.
Il fallait faire un choix et c'est tombé là. Ouais, ils ont fait des petites babkas qui sont très mignonnes, tressées avec des saveurs, une petite persillade. La deuxième entrée, c'est des petits poissons qui sont confits à l'huile d'olive avec un voile de pommes de terre.
Des petits quoi ?
Poissons.
Ah, des poissons. Ouais. Ah oui, parce qu'il n'y en avait pas le jour où on y était. C'était que du légume.
Ouais, il fallait venir aujourd'hui.
Voilà.
Voilà, là sur le plat, ils ont fait un millefeuille avec plein de petits légumes très chouettes, un chou farci avec des lentilles, un petit jus végétal, parce qu'on ne va pas déconner non plus.
Un chou farci sans viande ?
Ouais.
Ça, c'est interdit par la Fédé, ça, non ? À la campagne, on prend un coup de fusil si on fait ça, non ?
Par les autres campagnards, sûrement. Je ne mange pas de chou, donc...
Sauf fermenté. Sauf lacto-fermenté, non ?
On n'a pas fait.
Bah alors.
Ah si, le kimchi. Si, pardon, on a fait du kimchi, mais non,
c'est pas votre truc.
C'est pas mon truc.
Bon, une recette
Oui, le chou farci, On l'a fait nous aussi. On l'avait fait au riz et au pois chiches, avec un jus végétal aussi.
Alors hier soir, en préparant cette émission, on était scandalisés, Sandra. On a vu nos confrères de l'émission très très bon de Paris Première en train de fabriquer un toum. Et ça n'allait pas du tout. Hein. Qu'est-ce qui a coincé hein. D'ailleurs, il faudra le leur rappeler. On appellera au standard pour leur dire que ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce qui coincait dans le toum de notre ami Anthony Cointre hier en studio Allez, là, il faut balancer, là. La balle est dans votre camp. Là. C'est quoi le toum, Sandra?
Le toum, ça va être une sorte d'aioli qui va venir de la cuisine du Levant sur une base d'ail. D'ail qu'on va faire blanchir pour adoucir un peu. Et qu'on va monter. Alors
blanchi, c'est quoi? C'est on lui met un coup de on l'ébouillante.
Ouais. On va le cuire dans une eau bouillante pour l'adoucir en fait, pour enlever un peu le côté. Ouais, voilà. Et au lieu de le monter avec un jaune d'œuf, sera monté avec un blanc d'œuf, un peu de moutarde et monté à l'huile.
Ah oui, et la moutarde, c'était le. Là, il y avait, c'est la controverse, pire que la controverse des albigeois. Là, c'est. Il y en a ou il y en a pas? Alors.
Hier, ils ont fait une revisite. Le classique du toum, comme m'a dit quand Claudine, qui a le restaurant libanais, c'est juste de l'ail et de l'huile neutre.
Ah oui, elle était en train de se retourner dans son restaurant, elle n'en pouvait plus de voir ça.
Voilà, mais donc voilà.
On arrive à la fin de cette émission, donc ce toum, on accompagne ça avec quoi? Ça se mange avec quoi, Sandra?
Avec des légumes, avec de la volaille, ouais, ça peut. Ouais, j'ai légumes. Quand même rajouté un peu de volaille, avec éventuellement de viande, des poissons. Enfin là, pour le coup, ça s'accompagne vraiment avec tout.
Lisa, le toum, vous en avez déjà mangé?
Non, mais j'attendais le flan à la bière que vous nous deviez nous amener.
Ah oui,
il est en bas.
Qui joue l'arlésienne depuis deux jours. Là,
Je vous ramène pour le goûter après.
Allez, on va aller le rejoindre. On va aller terminer cette émission autour de ce flan, cette série de trois émissions qu'on passait depuis les Halles de la Cartoucherie, CFM Radio et Radio Terre, grâce à l'ARA, l'Assemblée Régionale des Radios Associatives. On la termine, cette émission, avec vous toutes les trois. Sandra Ben Slimane, formatrice et chef de cuisine à la source, et les deux élèves, Camille et Marianne. Un grand merci à toutes les trois.
Merci.
Vous
pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site cfmradio.fr, probablement aussi sur Radio Terre. Nicolas, Rivière, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Lisa.
Au plaisir.